La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir discuter d'une question hautement sensible, d'une question extrêmement importante quand on voit l'étendue des dégâts causé, n'est-ce pas, par celle-ci, d'une question incontournable quand on voit l'architecture des sociétés humaines, d'une question particulièrement vaste quand on regarde l'histoire de l'humanité. Nous allons parler de la vie de couple, de mariage en Jésus-Christ. Nous allons parler du mariage en Jésus-Christ. Je disais donc que le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage en Jésus-Christ. Vous devez savoir que le mariage est une institution voulue par Dieu. Et ce mariage-là, quand on va regarder, a été institué par Dieu. Il suffit de constater que c'est Dieu qui a, après avoir engendré Adam, a engendré Ève. Il suffit de regarder la Genèse. La Genèse permet de savoir que c'est Dieu. Qui a commencé cette affaire de mariage? Donc, lorsque des hommes parlent de mariage, il faut qu'ils aient au moins d'abord la sagesse de se rendre compte que ce n'est pas une institution voulue par les hommes, mais une institution voulue par Dieu. C'est très important parce que on a un problème de préséance dans cette affaire. Les parents, en règle générale, semblent, lorsqu'ils ont une progéniture, croire que c'est eux qui décide sur les enfants et sur la vie des enfants. Alors que, si on veut mettre les choses à leur place, d'un point de vue chronologique, et donc même d'un point de vue juridique, parce qu'il y a une question de droit là-dedans, celui qui a commencé cette affaire de mariage pour les hommes, c'est le Créateur lui-même. On sait Quand on lit Genèse 2, que Adam a été créé, et après, Ève est venue. On ne sait pas combien de temps Adam a été gardé endormi. On ne sait pas pendant combien de temps Dieu a fabriqué Ève sur la base de la côte retirée chez Adam. Mais on sait seulement que quand Adam s'est réveillé et il a vu la charmante créature qui lui était présentée par l'Éternel, Genèse 2, le verset 22 le dit, « Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme, et dit, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Le verset 24 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc, on regarde à partir de ce moment, moment historique, on constate que c'est Dieu qui a institué le mariage et non les hommes. Si c'est Dieu qui a institué le mariage et non les hommes, c'est-à-dire que Dieu a établi une hiérarchie de normes sur cette question, une hiérarchie qui doit être respectée par les hommes. Il y a une préséance qui doit être respectée par les hommes. Et cette préséance, elle est inscrite légalement dans la Bible à plusieurs niveaux. Nous allons commencer par vous donner ces éléments légaux. Et on va vous les donner graduellement. Ainsi, vous allez commencer à voir se dessiner un schéma que le monde ne peut pas vous montrer. Je vais vous parler d'abord d'Éphésiens 5, le verset 23, et 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je vous demande d'être très attentif, parce que c'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue. Parce que quand vous ne savez pas ces choses, c'est comme ça que vos souffrances commencent à se déployer et vous ne savez pas où le problème a commencé, vous ne comprenez pas où vos problèmes ont commencé à se déployer et vous passez le temps à vous plaindre. Mais à vous plaindre comment? Comme des païens et comme des ignorants. Éphésiens 5, le verset 23 dit ceci, pour votre gouverne. Je vais commencer au verset 22. Éphésiens 5, le verset 22. On va aller jusqu'au verset 23. Là, je vais profiter pour donner deux éléments de loi directement. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est sauveur. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. On regarde même dans ces éléments de loi, on peut aller jusqu'au verset 24 à 25. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 25 apporte une plus-value. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Lorsqu'on regarde un peu l'architecture de ce qui est dit et on regarde le système de préséance, il est évident que on a nous avons ensemble lu qu'il est demandé à la femme d'être soumise à son mari. On n'a pas dit à l'homme d'être soumis à sa femme. Ça n'existe nulle part dans la parole sainte. Nulle part. C'est la femme qui doit être soumise à son mari. De la même manière que l'homme, on le dit, est le chef de la famille. Christ est le chef de l'Église. Pour compléter ce tableau, il est dit aux femmes qui doivent être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise à Christ. Il a dit quelque chose à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle. Nous allons commencer par vous donner un schéma que les mondains ne connaissent pas. Que signifie ce texte que nous venons de lire ensemble? Ce texte signifie que l'homme est programmé pour être sensible au respect. Au respect, pas à l'amour. Et la femme, elle est plus programmée pour être sensible à l'amour. En d'autres termes, si vous respectez une femme et vous ne l'aimez pas, ça ne l'intéresse pas. Le temps qu'elle veut intégrer ça dans l'intelligence et tout ce qui va avec, c'est une autre affaire. Mais son logiciel originel est que la femme a besoin d'être aimée. Le logiciel originel de la femme est que elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin d'être écoutée. Alors que l'homme, tu as beau être romantique et tout ce qui va avec, si tu ne lui montres pas de respect à ses yeux, tu ne vaux rien. Parce qu'il a été conçu par Dieu pour que ce à quoi il est le plus sensible soit le respect. Il y a beaucoup de femmes qui se cassent le nez à cause de ça. Il y a un préalable qui n'est pas dit ici, mais je suis obligé de l'aborder. Ces préconditions configurationnel au sein du foyer, au sein du couple, n'ont de validité que si dans ce couple, tout le monde est en Jésus-Christ. Si tout le monde n'est pas en Jésus-Christ, la femme est musulmane, ou l'homme est musulman, ou judaïque, ou c'est pas encore quoi là, ils auront du mal à s'entendre parce qu'ils n'ont pas le même schéma légal. Ils n'ont pas le même environnement spirituel. Ils ne peuvent donc pas aller à la même longueur d'onde. 1 Corinthiens 11, le verset 3 dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Je recommence. Il y a quelque chose là qui se passe et qui ne doit pas vous échapper. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors, quand on voit une telle hiérarchie qui est établie, Dieu est le chef de Christ. Commençons par là-bas. Comme ça, on va descendre en une seule ligne. On vous donne la hiérarchie globale. Dieu est le chef de Christ. Quand on dit de Jésus-Christ que tout pouvoir lui a été donné au ciel comme sur terre, qui lui a donné ce pouvoir? C'est son Père. Qui est son Père? C'est l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel des armées gère plusieurs univers dans l'environnement qu'on appelle la terre. Il a suscité une haute personnalité, très haute personnalité, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, à qui tout pouvoir a été donné sur terre et aux cieux concernant la terre. Maintenant que tout pouvoir a été donné à Christ sont soumis les hommes. Et aux hommes sont soumis les femmes. Les femmes sont soumises aux hommes. Les hommes sont soumises à Christ. Christ est soumis à Dieu, à l'Éternel des armées. Cela veut dire que les femmes sont soumises à Christ de la même manière que les hommes sont soumis à Christ. Mais il y a le fait que la femme soit d'abord soumise à l'homme qui lui-même est soumis à Christ. Cette architecture-là, si on ne la comprend pas au sein du mariage, et si on ne prend pas la mesure des incidences que cela implique, on se casse le nez, mais alors profondément, durablement, sérieusement. Voici une société qui a appris aux femmes à être prioritairement des individus rebelles, des individus insolents, des individus têtus, des individus orgueilleux, et des personnes qui veulent, au sein même du mariage, des personnes qui veulent s'émanciper de l'autorité de l'homme, c'est-à-dire de l'autorité de Dieu en l'homme, et donc de l'autorité de Dieu tout court. Ce n'est pas possible que dans un mariage, la femme puisse s'émanciper de l'autorité de son mari. Si c'est entre des païens, ça les regarde. Si c'est entre un païen et un croyant, Dieu n'était pas dedans. Parce qu'il faudrait déjà que l'on règle la question initiale de ce que tout mariage n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas mettre son enfant dans un mariage où il voit, où il sait que son enfant va souffrir. Toutes les personnes qui vous enseignent en disant que ce que Dieu a lié, personne ne doit le délier. Il faudrait que ces personnes-là vous expliquent un peu où est-ce que Dieu a lié le mariage dont ils parlent là. Parce que vous pourriez aller consulter Dieu sur certains mariages et il répondrait sans embâche, je n'y suis pas. On ne m'avait pas consulté. Et ça, ce n'est pas bon. Si Dieu dit concernant un mariage qu'on ne l'avait pas consulté, vous ne pouvez pas l'engager dans une affaire. Ce sont les hommes qui vont dire que Dieu a lié, a uni ces personnes. Ce sont les hommes. Dieu n'y était pas. Quel est le problème et la configuration que l'on peut se faire sur cette question? Un bon mariage est un mariage que Dieu a sécurisé. Un bon mariage est un mariage que l'Éternel des armées lui-même a construit . Il faut comprendre comment. Tant que vous n'êtes pas dans un schéma construit par l'Éternel des armées, vous êtes dans une chose qui ressemble à ce que vous vous êtes dit. Mais, tôt ou tard, vous allez sentir dans votre chair que Dieu n'était pas dans l'affaire là. Quels sont les éléments qui fondent le mariage selon Dieu? Tendez bien les oreilles. Le premier élément qui pour Dieu fonde le mariage, c'est la compatibilité spirituelle. Qui peut établir la compatibilité spirituelle entre un homme et une femme? C'est celui qui les a créés, celui qui les connaît, et c'est celui qui, connaissant leur histoire, leur véritable nature, leurs caractéristiques, leur véritable gène, le dépôt initial que lui, Dieu, le Créateur, a mis en eux, c'est lui qui, sur la base de la mission qu'il a accordée à la femme avant qu'elle naisse, de la mission qu'il a accordée à l'homme avant qu'il naisse. C'est lui qui sait donc comment est-ce que on doit mettre l'individu X avec l'individu Y. Cela signifie que, avec l'intelligence humaine, il n'est pas possible d'établir une compatibilité. Je vais le dire autrement. Ceci signifie que sans l'Esprit de Dieu, les chances pour que un homme trouve sa femme, une femme trouve son mari, et que ce soit un bon choix, ces chances sont extrêmement faibles. Vous n'imaginez pas l'expérience que j'ai de cette affaire. La première fois que j'ai commencé à souffrir de cette affaire de choix de mariage, c'est lorsque je recevais un fidèle, un monsieur qui avait 56 ans et qui avait 4 enfants avec une femme. Pendant que ce monsieur à 56 ans sonnait, avec 4 enfants avec une femme, se plaignait devant moi de ce que il est en train de divorcer avec sa femme et que son mariage est un calvaire, l'Esprit Saint me disait de ce monsieur que la femme avec laquelle il est en train de divorcer et avec laquelle il a fait 4 enfants n'est pas sa femme. Je n'avais pas encore appris à tout encaisser. J'étais très calme, mais j'étais perturbé. Je réfléchissais quant à ce que un homme est passé avec une femme. Près de 25 ans de mariage, qui soit déjà à la soixantaine, pratiquement, avec tous ses enfants, et que le Créateur vienne m'apprendre que l'homme que tu vois en face de toi il a épousé une femme qui n'est pas la sienne. Et il ajouta, il lui a montré sa femme, il a refusé de m'écouter. Ce sont des choses qui perturbent. C'est quelle histoire? Donc, il y a des gens qui sont mariés, ils ont des enfants, ils se sont même mariés dans tous les cadres légaux. Ils ont fait un mariage à l'église. Ils ont fait le mariage traditionnel. On les a dotés. D'autres ont versé la dot. Peut-être c'était 1 million, 2 millions. Moi, je ne sais pas. Il y a eu des réunions. Ils se sont mariés à la mairie. Quand ils ont fait tout ça là, et ils ont dansé, ils ont festoyé, d'autres ont chanté sur les toits des voitures, ripipip, parlé encore. Répipip, parla encore. Tout ce qu'il faisait là, Dieu n'était pas là. Donc à l'origine, il s'était déjà cassé le nez. Il n'y avait que pour ne pas être au courant de ce que Dieu n'était pas là. Je ne veux pas développer ce sujet dans les dimensions communicationnelles, interrelationnelles, les dimensions d'inter-influence, d'interdépendance et d'interaction, sans d'abord baliser le terrain au niveau légal, selon Dieu. Je vous ai lu ce qui est dans la parole de Dieu, mais il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'attaquer cette problématique, je lis des inquiétudes. Il y en a qui se posent des questions. Je vais engager une démarche de résolution de problèmes suivant des priorités contextuelles, en lisant le schéma de la vie de chacun, avant d'aller à toute autre chose. C'est-à-dire que quoi? Pour ne pas vous laisser vous balader dans des inquiétudes multiformes, plurisectorielles, il faut encore que vous soyez confortés par ce que nous allons dire pour que vous voyez devant. Et si vous ne voyez pas devant, on ne va pas entrer dans des éléments succulents que j'aimerais pourtant que l'on touche. Ce qui concerne la vie de couple en eux-mêmes. Et le management de la vie de couple. Pour ne pas aller trop loin au niveau de la démarche, commençons à lire la situation là-haut, de là-haut, vous avez eu à vous repentir, à vous convertir, et par les efforts du quotidien dans la marche à Dieu, vous êtes devenus des adorateurs. Premier cas de figure. Vous devenez adorateur. Vous avez donné à Jésus-Christ la première place dans votre vie. Jésus-Christ est devenu le centre de gravité de votre vie. Vous avez le privilège d'être célibataire. Je commence par là parce que c'est plus simple. Quand vous êtes célibataire, il se trouve que ce n'est pas compliqué. Dieu va vous trouver une femme. Mais il y a très peu de chances que ce soit parmi vos anciennes petites. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu va vous trouver une femme au vu de ce qu'il sait qu'il a déposé en vous. Et une femme qui va vous complétez selon le plan de Dieu, de manière à ce qu'il y ait la gloire de Dieu dans votre vie, et de manière à ce que vous soyez des personnes épanouies. C'est extrêmement important pour l'Éternel des armées que dans le mariage où vous entrez, que vous soyez des personnes épanouies. Donc ceux qui sont des célibataires, hommes, il n'y a pas de problème. Dieu va leur trouver une femme. Ceux qui sont des célibataires femmes, il n'y a pas de problème. Dieu va leur trouver une femme. Ceux qui sont des divorcés, il n'y a pas de problème. Dieu va leur trouver une femme. Dieu va leur trouver un mari. Bon. Entrons alors dans la partie qui est compliquée. Non, je finis avec les parties simples. On a parlé des célibataires hommes, célibataires femmes. Célibataires hommes, Dieu va leur trouver une femme. Célibataires femmes, Dieu va leur trouver un mari. J'attire votre attention pendant qu'on y est, qu'il y a une grande différence entre mari et époux. Le mari d'une femme, c'est l'homme qui lui correspond selon les critères de Dieu. L'époux d'une femme, c'est l'homme qu'elle a épousé devant les gens. Ce n'est pas sûr que ce soit son mari. La femme d'un homme, c'est la femme qui lui correspond selon les critères de Dieu. L'épouse d'un homme, c'est la femme qu'il a épousé devant les gens. Ce n'est pas nécessairement sa femme. Mais je passe. On a dit que quand quelqu'un est célibataire, Dieu va lui trouver une femme. Dieu va lui trouver un mari. Quelqu'un est divorcé, Dieu va lui trouver une femme, Dieu va lui trouver un mari. Quand tu es veuf, Dieu va te trouver une femme. Quand tu es veuve, Dieu va te trouver un mari. Parce que beaucoup de veufs ne voient pas ça dans leur esprit. Et pourtant, c'est la réalité. Oui, beaucoup de veufs pensent qu'ils sont finis. Surtout quand ils ont déjà la soixantaine par là. Oh. Ils m'aiment avant le temps en pensée. Et leur comportement est un comportement de catabolisme. Donc de destruction cellulaire. Leur vie n'a plus de saveur. Elle ne tient qu'à un fil. Et ils aiment à être surtout malheureux. À brandir le veuvage partout. Jusqu'y compris dans toutes les conversations. Ah, depuis que mon mari est mort. Ah, depuis que ma femme est morte. Bon, heureusement que ce n'est quand même pas équivalent. Un homme, quand il est veuf, il oublie le veuvage là vite. Les femmes, quand elles sont veuves, elles passent le temps à aller pleurer à la tombe pour dire que vraiment, Antoine, si tu étais là, les choses comme ça ne pouvaient pas m'arriver. Étienne, si tu n'étais pas parti, on n'allait pas me faire ça. Je donne l'information rapidement parce que nous sommes en train de faire un cadrage. On est en train de gérer des choses très, très, très délicates. Je dis à toutes les femmes qui sont veuves qu'il faut qu'elles cessent de s'appeler veuves parce que leur premier mari est toujours vivant. Leur premier mari est Jésus-Christ. Si elles ne savent pas comment s'appeler, qu'elles disent « Je suis Madame Jésus-Christ ». Le premier mari qui est le Père, le vrai Père, ton vrai Père, va te trouver un deuxième mari. C'est une question qu'on va aborder dans d'autres circonstances, mais en vérité, les personnes qui habitent les mentalités et les comportements de deuil sont des personnes qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. C'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir racheter l'humanité. Et que par là même, s'il leur a donné un mari, et que ce mari soit parti, il va encore, dans cette relation de complicité, lui en donner un nouveau. Encore que je dis, pour ceux qui n'en ont pas conscience. Encore que je dis, que quand il arrive qu'une femme ait un mari qui est décédé, ou qu'un homme ait une femme qui est décédée, le plus souvent, c'est une méthode que Dieu, si bien entendu, le veuf ou la veuve sont en Jésus-Christ. Le plus souvent, c'est une méthode que Dieu a trouvée pour délivrer celui qui est devenu veuf de ce mariage ou pour délivrer celle qui est devenue veuve de ce mariage. En d'autres termes, la perte d'un être cher est une porte ouverte à un nouveau bonheur en Jésus-Christ. Je ne le dis pas pour vous rassurer, je vous le dis parce que c'est comme ça. Dieu pense dans le détail le bonheur de ses enfants et Dieu sait quels sont les éléments qui constituent le bonheur de ses enfants. Quand vous perdez votre femme ou lorsque vous perdez votre mari, votre épouse, votre époux, qu'il soit clair dans votre esprit que cette perte est l'opportunité, est une véritable opportunité pour Dieu de vous apporter le bonheur, la joie, plus de fertilité, plus de prospérité, plus de paix, plus d'abondance matérielle et financière, plus de joie. N'en doutez pas, car c'est ainsi que Dieu pense la chose. Je vais fermer cette parenthèse, car je suis en train de regarder les différentes configurations. On ne pouvait pas traverser pour regarder les gens mariés sans avoir un regard sur ceux qui se retrouvent célibataires, pas parce que c'est un statut qu'ils ont choisi, mais parce qu'ils ont eu un deuil. Je me suis permis, par extension configurationnelle, de mettre les veufs et les veuves dans le schéma de solitude des célibataires. Entrons donc dans la configuration qui veut que nous sommes dans le cadre d'un mariage, et dans ce mariage, il y a un adorateur ou une adoratrice. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a toujours son plan qui ne change pas. Son enfant doit être heureux. L'enfant doit être heureux. Car si l'enfant n'est pas heureux, le père est malheureux. Dieu, lui, ne voit pas les choses sur l'instant. Il regarde dans la durée. Il faut qu'il vous donne une femme qui peut vous porter, qui vous donne un mari qui peut vous porter, qui peut vous encadrer. Et qui peut vous porter et où vous encadrer selon, bien entendu, les principes de Dieu. À l'avantage de l'œuvre de Dieu, à l'avantage des enfants de Dieu. Vous avez remarqué que je parle très posément parce que je ne voudrais pas que quelqu'un rate un virage dans cette affaire. Quand vous devenez enfant de Dieu, et vous êtes marié, la première chose que Dieu essaye de faire, pour votre propre sécurité, pour votre confort, c'est voir quelles sont les modalités qui permettront que votre conjoint soit aussi en Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Car si votre conjoint n'est pas aussi en Jésus-Christ, vous allez souffrir, et vraiment souffrir. À cause de cela, il faut déjà que Dieu cherche comment il va régler le problème. Mon enfant est en danger. Mon enfant est en danger. Mon enfant est dans un endroit où, dans une relation de couple, quand le danger arrive, son épouse, son époux ne peut pas le protéger. Voilà la configuration dans laquelle Dieu se retrouve. Dieu se retrouve dans une situation où il regarde votre couple. Vous êtes enfant de Dieu. Votre conjoint ou votre conjointe n'est pas enfant de Dieu. Quand les sorciers, les esprits de mort arrivent, les esprits de nains arrivent, les anges des ténèbres arrivent, les sorciers, sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, démons des eaux, esprits aquatiques, les extraterrestres, les esprits de montagne, de la terre, des airs, etc., arrivent dans votre foyer. Il n'est pas possible que vous défendiez suivant les règles de Jésus-Christ. Car l'autre conjoint, qui n'est pas en Christ, ne sait pas comment on marche avec Christ, ne sait pas prier selon les critères de Christ, n'a pas d'efficacité selon la marche avec Dieu, ne connaît même pas les principes de sanctification, de purification, n'a aucune idée de la vraie guerre, ne comprend pas les principes de piété, etc., ignore ce qui plaît à Dieu. Donc, le monde des ténèbres vous colle des raclées en aller-retour, à tous les virages, parce que vous êtes seul à prier. Et vous avez les obligations conjugales. Ou voilà, vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui est pas une fenêtre, pas une porte, pas un portail, un boulevard pour les démons. Tout peut entrer dans le foyer par là-bas. Vous aussi, vous allez partager votre intimité avec. Vous avez des rapports sexuels avec un boulevard pour les démons. Dieu gagne quoi? À ce que chaque fois qu'il vous nettoie, regardez comment on vous nettoie chaque semaine. Que votre conjoint ou votre conjointe vienne tout gâter. Mais comment tout gâter? Contribuer à ce que le camp ennemi puisse toujours détruire tout travail relatif à votre santé, à vos délivrances, à vos restaurations. Ainsi, votre vie stagne. Les maladies qui devraient disparaître de vos vies ne disparaissent pas. Toutes les grâces qui vous viennent de Dieu sont à la portée du camp ennemi. Les projets que Dieu a pour vous ne peuvent pas se réaliser parce qu'on n'a pas encore fait les délivrances approfondies. On n'a pas pu faire les guérisons approfondies. On n'a pas pu faire la régénération à certains niveaux. On n'a pas pu faire les restaurations. Vous allez avoir les élévations quand? Votre édifice va s'appuyer sur quoi? Sur du sable mouvant? Dieu, lui, vous regarde, il a des projets pour vous. Il veut que vous soyez une grande personne, une personne épanouie, une personne confortable. Dieu, lui, vous regarde, il veut que vous soyez une personne qui a sa place dans la société, qui n'est pas esclave, qui est libre, qui a l'autorité de Christ, qui a l'autorité de l'Éternel. Pendant tout ce temps, pendant tout ce moment, vous, tout ce que les anges de l'Éternel font sur vous et pour vous, ça regresse. Parce que vous couchez chaque semaine avec un boulevard d'accès aux démons. Tout y entre. Ça fait que votre maison devient leur terrain de jeu. Ils peuvent faire de votre maison un marché, un supermarché, un terrain de volley, de handball, de football, de basketball. Il n'y a aucune interdiction. S'ils voient que la maison ne leur suffit pas, ils vont faire même de votre corps un marché, un supermarché. Je ne suis pas en train de parler au figuré. Je parle au propre. Je parle de la réalité spirituelle. Ils vont faire de votre corps un magasin de totems. Un magasin de leurs propres ustensiles de cuisine. Je parle avec l'expérience. Il y a des gens, tu regardes, tu vois que dans leur corps, il y a les réunions et démons tous les jours. D'autres, c'est l'endroit où on vient manger. D'autres, leur corps, c'est une piste d'atterrissage et de décollage. Alors qu'on travaille pour que tout cela change, alors qu'on travaille pour que votre vie change, vous couchez tout le temps au prétexte que vous aimez la personne, avec un boulevard d'accès aux démons. Qu'est-ce que Dieu gagne à vous voir souffrir comme ça? Dès qu'on vous sort des captivités le matin à 18h, vous êtes déjà rentré dans deux captivités. On vous sort des captivités à midi, le lendemain on vous trouve dans quatre captivités. Donc votre vie ne peut pas avancer. Avec un conjoint qui n'est pas de Jésus-Christ, votre vie n'avancera jamais. Même si vous avez l'impression que c'est lui qui vous nourrit, vous vous trompez, vous vous mentez. Car ce n'est pas sur le moment que votre vie se passe, c'est dans la durée. Votre vie est d'abord spirituelle. C'est ainsi donc que vous devez constater et réaliser que tant que vous n'avez pas un conjoint qui comprenne comme vous comment on marche avec Dieu, comment on prie en Jésus-Christ, comment est-ce qu'on respecte les préceptes de la marche avec Dieu, tant que vous n'avez pas un conjoint qui peut faire équipe avec vous, qui peut faire bloc avec vous, qui fait un avec vous, votre foyer est vulnérable, malléable, fragile, fébrile. Et c'est comme ça que tout peut vous arriver. Donc en réalité, on pourrait développer cette problématique de plein de façons. Mais peu importe les raisons que vous pouvez vous donner et les excuses que vous allez vous accorder, je viens sans avoir de développer la question, de vous démontrer sommairement qu'en réalité, un foyer ne doit être constitué que d'adorateurs. Il faut que les deux soient des adorateurs. Dans cette configuration-là, l'Éternel essaye donc de convertir celui qui n'est pas un adorateur. Car plus sa situation perdue, plus Dieu lui-même il est perdant, puisque son enfant est perdant. Dieu est perdant parce que de toute façon, il investit pour rien. Et son enfant est perdant parce que tout l'investissement de son père, le Créateur sur lui, tombe dans la boue. Ça veut dire que tant que vous êtes dans une mauvaise relation de couple, vous faites travailler Dieu pour rien. Et vous-même vous tournez en rond, tout simplement, pas moins que cela. La démarche divine est donc de voir comment convertir celui qui est faible dans le foyer, soit parce qu'il prie peu et donc ne participe pas, et donc n'est pas un adorateur, que ce soit un homme ou une femme, soit parce que de toute façon, la personne ne sert à rien dans la marche avec Dieu. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais Dieu a ses délais. Et les êtres humains qui s'amusent à penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant longtemps, en se foutant pas mal de ce que Dieu veut, ils finissent par être surpris quand les délais de Dieu sont arrivés. En vérité, je vous le dis, ceux qui vous racontent des histoires ne connaissent pas la marche avec Dieu. Ils disent que personne ne doit désunir ce que Dieu a uni. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que si Dieu n'a pas uni un mariage, il peut le gâter, puisque il n'était pas là. Mais je vais vous choquer. Si c'est Dieu lui-même qui a uni un mariage, et dans le mariage, l'autre personne devient ténébreuse, il peut organiser le divorce. Il y a des gens qui, lorsqu'on parle de ces choses, ils disent que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas être dans un tel schéma. Vous êtes des êtres vivants qui prennent des décisions. Donc vous sentez que Dieu, lui, ne peut pas en prendre. C'est vous seul qui savez prendre les décisions. C'est vous seul qui avez le pouvoir de prendre les décisions. Pour votre gouverne, l'Éternel des armées est souverain. Je parle très posément parce que ce dossier est très profond et complexe. Il faut qu'on commence par un bout pour finir par un autre. Je vais vous lire Matthieu 19 au verset 6. Parce que c'est là-bas qu'ils s'en vont s'appuyer. Et quand ils lisent comme ça, ils oublient ce que je vous ai enseigné tout à l'heure. C'est qu'il y a des mariages où Dieu n'est pas. On a dit Matthieu 19, verset 6. Parce que c'est ça qu'ils lisent souvent. Parce que bon, Matthieu 19 au verset 6, c'est quand même partie des passages qui parlent du divorce. Mais je vais vous lire tout Matthieu 19 de 1 jusqu'à, bon, je vais être généreux jusqu'à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et il répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Quand on entend cette réponse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. Ici même, je ne veux pas aller développer parce que ça pourrait vous amener à perdre le fil. Dans cette affaire où on est là, où on est en train de regarder plusieurs configurations, On a parlé des célibataires, facile. Célibataire, homme, célibataire, femme, facile. On a parlé des veufs et des veuves, facile. Parce que le cas des veufs et des veuves ressemble à celui des célibataires. On a parlé des divorcés, facile. Parce que le cas des divorcés ressemble à celui des célibataires, dans une certaine mesure. Je ne veux pas entrer dans tous les paramètres, gestion des enfants, gestion du patrimoine. Je ne veux pas parler de ça. On est dans l'affaire où les gens découvrent Jésus-Christ étant déjà marié. Et dans leur affaire où ils disent qu'ils sont mariés là, en vérité, Dieu n'était pas là. Le Créateur voit comment il va essayer de changer les choses. Mais, parfois, vous-même vous épousez des serpents en vous disant que le serpent va se transformer en poussin un jour. Ce n'est pas possible. Le serpent ne peut pas se transformer en poussin. Quand tu épouses un grand sorcier, une grande sorcière, et qu'on dise à ce sorcier ou à ce sorcier de quitter la sorcellerie, de quitter les sectes, cela, il s'en va organiser encore plus d'incantations contre toi pour voir si ton Dieu est fort. Après, tu dis que Dieu, pardonne mon sorcier de mari, pardonne ma sorcière de femme. Plus tu dis ça, plus la personne organise les réunions contre toi. Vois comment il faut te vendre à tous les carrefours de sa sorcellerie. Dieu a un temps d'observation de l'affaire. Il attend la repentance de la personne. Mais il ne va pas attendre éternellement parce que le temps passe et il est précieux. Voilà là où ça se passe. Vous avez d'autres, ils ne sont pas sorciers à premier, ni au premier niveau, mais ils ont des abonnements préférentiels chez les marabouts, chez les chamans, chez les devins de tout type. Mais c'est tout comme, ils ont les poudres qu'ils vous mettent dans la maison, d'autres directement les mettent dans le vagin, d'autres les mettent dans la nourriture, et cetera. D'autres vous mettent ça dans les oreillers ou dans la boisson. C'est pour faire quoi? Quel est le but? Quel est le projet? Quand Dieu veut sauver son enfant, si et seulement si cet enfant lui démontre qu'il l'aime, Dieu, qu'ils aiment, que s'il aime Dieu. Parce que ça, c'est une condition fondamentale. Quand vous montrez à Dieu que vous l'aimez, quand vous montrez à l'Éternel des armées que vous le désirez, que vous voulez le connaître de tout votre être, c'est là où vous découvrez qu'il a un Père total. Il prend les mesures pour mettre à nu votre ennemi, fût-il votre conjoint. Voilà la parole qui dit que, la parole de Dieu, qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ça peut être le fait de Dieu. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Oui, mais quand les gens t'ont aligné les frustrations, les humiliations, les déceptions, les désillusions, vraiment tu peux dire que vraiment c'est bon comme ça. Je ne me marie plus. Depuis, il y en a d'autres qui le sont à cause du royaume des cieux. Ce n'est pas compliqué. L'apôtre Paul avait dit que lui, il ne se marie pas. Que les affaires des femmes, là, c'est bon comme ça. Il a connu les femmes avant. Maintenant qu'il a connu Jésus-Christ, il ne veut pas compliquer sa vie. Mais il a dit aux gens que si vous sentez que vous ne pouvez pas vous retenir, mariez-vous, hein, de peur de péché. Je vais parler, donner les références bibliques chaque fois. Vous-même, vous devez lire la Bible. Donc, voilà là où ça commence à être compliqué. Si tu dis que tu veux Jésus-Christ dans ta vie, tu dis que tu l'aimes vraiment, tu le désires, et tu le démontres, Dieu prend le contrôle de la situation. Ce n'est plus que tu te fais balloter à gauche, à droite. Il va organiser le divorce là. toute personne sur cette terre qui vous dit que Dieu ne peut pas organiser le divorce dans un foyer est un menteur et un ignorant. Dieu ne peut pas laisser son enfant entre les griffes des malins, des méchants et des ténèbres. Ton enfant qui t'aime, tu le laisses. Le principe le plus puissant, c'est l'amour. L'amour de Dieu est le principe le plus puissant. Et l'amour de l'homme pour Dieu est le principe le plus puissant. À cause de l'amour, et que personne ne vous dit jamais le contraire, Dieu sortira les adorateurs qui sont dans de mauvais mariages, de ces mariages-là, afin de leur permettre d'avoir de bons mariages, afin de leur permettre d'avoir la liberté, l'indépendance, afin de leur permettre d'avoir le bonheur, la joie, la fertilité, la prospérité, l'abondance matérielle et financière, la paix du cœur et de l'âme, la santé divine. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez ensemble. Qu'on ne vous dise pas des sottises. Que non, vraiment, ce qui a été uni par Dieu ne doit être désuni. Et puis quoi? Si Dieu te donne un mari, ce mari-là devient un grand sorcier, un grand sectaire. Alors que Dieu avait béni ce mariage, ce mari-là combat Dieu, l'œuvre de Dieu. Dieu se retire de votre foyer. Et si tu ne comprends pas que Dieu s'est retiré de votre foyer, si Dieu te donne une femme et cette femme commence à combattre l'œuvre de Dieu, Dieu se retire de ce foyer et il commence à planifier comment sortir la personne qu'il aime de ce calvaire. Une femme qui n'est pas une femme de prière est dangereuse. Et elle est mauvaise dans un couple constitué par Dieu. Un homme qui ne sait pas occuper sa place en Jésus-Christ est dangereux. Il est mauvais dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut diriger, susciter la foi, la persévérance et la patience. En Jésus-Christ, il est dangereux. Alors, vous devez savoir que Dieu, au nom de l'amour et du besoin de voir son enfant être épanoui, puisque Dieu ne force la main à personne, Dieu a donné à l'être humain le libre arbitre. Et ce libre arbitre est inscrit dans la parole de Dieu. Parce que certains d'entre vous parlent, ils ne savent même pas que ce sont des choses qui sont bibliques. Le libre arbitre est bien inscrit dans la parole de Dieu. L'homme est libre et il est libre de dire non à Dieu. Pour ceux qui en doutent, je vais lire Deutéronome 30, le verset 19. Et vous allez me dire si ce n'est pas le libre arbitre. Parce que les êtres humains, quand ils veulent être de mauvaise foi, ils commencent à dire tout et n'importe quoi. Et c'est pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que quand vous avez la parole de Dieu, c'est elle qui est l'arme de combat. Deutéronome 30, le verset 19. Qu'est-il écrit à ce niveau? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je peux vous sortir plein de versets comme ça. En fait, vous pouvez aller examiner tout Deutéronome 30, pratiquement de 1 jusqu'à 20. Si vous êtes même curieux, vous allez jusqu'à... Oui, c'est de 1 jusqu'à 20. Ça parle de la vie ou de la mort. Donne-moi le livre pratique. Dieu veut sauver ton foyer. Il veut sauver ton mari qui n'est pas un adorateur. Tu es entré dans un mauvais tchouki. Dieu n'était pas là. Dieu veut sauver ton foyer. Il veut sauver ta femme qui n'est pas une adoratrice. Tu t'es marié en disant que c'est un mariage voulu par Dieu parce que tu étais trop amoureux ou trop amoureuse. Soit. Maintenant, ce n'est pas l'affaire d'être trop amoureux ou trop amoureuse. Il y a des dimensions de compatibilité, parmi lesquelles la compatibilité la plus importante à la base qui est spirituelle. Dieu veut sauver ton mariage, ton foyer, ta vie. Si la personne qui n'est pas en Jésus-Christ dans le foyer refuse la proposition de Dieu, donc Dieu doit rester là à attendre que son enfant meure. Non, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu dit que si tu me rejettes, je te rejette aussi. Vous tentez souvent vos choses, ça que vous faites souvent avec les hommes. Comme les jeunes filles qui découvrent qu'on leur fait la cour. Elles rejettent les hommes. On ne rejette pas Dieu. Là, c'est autre chose. Si tu rejettes Dieu, il te rejette aussi. C'est dans la Bible. Et la meilleure manière de rejeter Dieu, c'est désobéir aux instructions qu'il donne. C'est refuser de l'aimer. On vous a donné déjà plein de passages qui montrent que aimer Dieu, c'est respecter sa parole, garder sa parole et la mettre en pratique. On vous a déjà donné plein de passages dans ce sens. Tu rejettes Dieu, il te rejette aussi. Parce que certains veulent parler de ce sujet alors qu'ils n'ont pas d'argument. Comment voulez-vous que Dieu garde un foyer où on ne l'aime pas? Dans le foyer, il y a une personne qui ne l'aime pas. Jean 14, 21. Jean 14, 15. Sont clairs en ce que... Et il y a même 1 Jean 5, le verset 3. Jean 14, 21. Jean 14, 15. 1 Jean 5, le verset 3. Et Jean 14, 23. C'est le Nouveau Testament. Parce que je connais les gens qui disent que l'Ancien Testament est périmé. On est dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si ça aussi c'est périmé. Peut-être qu'entre temps, ils ont changé. Ils ont dit que ça aussi c'est périmé. C'est clair que si tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. Dieu te dit, confesse-toi, tu refuses. Repends-toi, tu refuses. Tu refuses de te repentir, tu refuses de te confesser, tu refuses de te convertir et tu dis que Dieu doit te laisser là. Jouis de ces choses. Parce que tu es trop joli. Ou parce que tu dis que tu as l'argent. Qui t'a donné l'argent? Tu sais que l'argent, c'est quoi? L'argent est spirituel. Tu es même sûr que l'argent que tu as là, c'est l'argent. Il y a un tas de sottises que les hommes font. Et ça relève de la bêtise la plus profonde. De croire que quand Dieu donne une instruction, ils peuvent la contourner. Voilà donc. Quand les conditions ne sont pas réunies pour que l'enfant de Dieu soit heureux, alors qu'il est déjà engagé dans un mariage, Dieu gâte le mariage et ça va se gâter. Et la personne qui n'est pas de Dieu va tomber dans cette affaire-là, les quatre roues en l'air. Peu importe comment. Mais parmi les méthodes, il y a la mort de l'autre conjoint qui n'est pas bien pour Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Et vous devez le savoir parce que certains d'entre vous ne le comprennent pas. Je le dis avec froideur. Dieu a le droit de vie et de mort sur l'être humain. On vous enseigne rien. On vous a dit que Dieu est miséricordieux. Oui, jusqu'où? Il est le créateur. Il peut mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est lui qui rappelle. Qui rappelle l'âme de quelqu'un. C'est lui qui donne la vie. Il peut la retirer. Vous avez les Tintins là qui sont dans les sectes qui disent que leur corps leur appartient. On dit à quelqu'un de ne plus pratiquer la zoophilie, il dit que son corps lui appartient. On dit à quelqu'un de ne plus pratiquer l'homosexualité et le lesbianisme, il dit que non, mon corps m'appartient, je suis libre de faire ce que je veux. On dit à quelqu'un de ne plus marcher nu, il dit que son corps lui appartient. Hein, il est libre de faire ce... Ah, ton corps t'appartient, d'accord. La réponse de Dieu est sans appel. Si ton corps t'appartient, je retire l'âme. Allez lire Jacques 2, 26. La foi sans les œuvres est aussi morte qu'un corps sans âme. Si on te retire l'âme, tu es mort. Full stop. Fin de parcours. Regardez donc cette complexité paramétrique de ce que certains soient entrés dans des mariages où ils n'avaient pas Dieu, ou de ce que d'autres soient entrés dans un mariage où initialement il y avait Dieu, mais l'autre a décidé de ne pas suivre. Mais vous allez divorcer. Que personne ne vous mente. La seule option, c'est le divorce. Que ce soit un divorce par veuvage ou divorce par séparation, il y aura séparation. Vous n'allez plus former un couple. Quand vous êtes dans une affaire où l'un de vos conjoints, l'autre conjoint dans le foyer, suit Jésus-Christ, celui qui ne suit pas Jésus-Christ, je dis ça aujourd'hui à ceux qui ont des oreilles. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Quand tu es dans un foyer où ton conjoint ou ta conjointe connaît Jésus-Christ et toi tu ne veux pas suivre, sache que tu es déjà en train de choisir la voie du divorce. Et ce ne sera pas une affaire simple. Tu vas tomber les quatre roues en l'air et tu vas pleurer toute ta vie si tu restes vivant. Je dis ça que ceux qui ont des oreilles entendent. Lorsque tu es dans un foyer, que tu sois un homme ou une femme, le conjoint ou la conjointe cherche Jésus-Christ d'un seul cœur. Toi, tu refuses de suivre parce que tu sens que tu es libre. Tu as choisi devant la face de Dieu le divorce et un divorce qui te sera défavorable. Et tu vas souffrir. Dieu va s'arranger à ce que tu regrettes ça toute ta vie. Et il n'y aura pas le chemin retour. Parce que tu te seras moqué de Dieu. Alors tu vas voir que Dieu aussi sait se moquer des gens. Il y en a là, ils disent, oh non, 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 Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire. Vous connaissez la parole de Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Attendez. Il y a un passage là qui vient comme ça. Il est dans Proverbe 1. C'est un pas loin, un pas loin. Attendez, pas chercher Proverbe. Attendez sur place. Ne bougez surtout pas. Parce que on vous enseigne la parole de Dieu en évitant les sujets qui fâchent. Donc, dans la parole de Dieu, il y a les sujets qui fâchent. Je viens. Attendez sur place. Chauffez bien la place là. Il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire. Dieu est miséricordieux. Donc il est tellement miséricordieux qu'il doit laisser ses enfants souffrir de manière éternelle. Attendez, Proverbe 1, je suis en train de trouver. 2, non, c'est 1 que je cherche. 1. Proverbe 1. 1. Ça commence ou même le. Voilà. Proverbe 1, verset 22 jusqu'à 32.
Écrivez d'abord. Il faut écrire au stylo rouge là-bas. Proverbe 1, versets 22 à 32. Donc Dieu te parle, il te parle, il te parle, il te convertis-toi, confesse-toi. Toi, tu es en captivité. Toi qui es là, tu ne cherches pas Jésus-Christ. Tu es dans une captivité profonde, abyssale. Au point où si on veut aller te chercher, il faut les sous-marins très perfectionnés. Il faut des ressources exceptionnelles, mais tu dis que, ah, qu'on me dérange pas. Proverbe 1. Vous dites que Dieu ne peut pas faire. C'est écrit dans sa parole qu'il peut faire. Il peut tout faire. Proverbe 1, le verset 22 jusqu'à 32. N'allez pas lire 33, ce n'est pas le moment. 22 à 32. Vous êtes arrivé à l'endroit. On travaille maintenant. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant les rebelles, les têtus, les insolents, les arrogants et les incrédules patentés. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Quand on parle de la science ici, c'est la science de Dieu, pas la science des hommes qui ont renié Dieu. Je continue. Je continue. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les paie. On vous a dit que Dieu est miséricordieux. Non, il ne peut pas faire ça. Non, Dieu ne peut pas organiser un divorce. Tu es dans une affaire comme ça où tu passes le temps à emmerder tout le monde. Tu n'as aucune discipline de vie. Tu ne veux même pas te confesser. Tu n'as même pas un projet de te convertir. Qu'on te laisse là, dans le mariage. Quel mariage? Avec l'autre qui cherche la lumière, tu passes le temps à lui faire le principe de vase communicant. Plus elle lave son côté, plus tu envoies la boue là-bas. Dieu ne peut pas faire. Il faut bien méditer ça, hein. Il faut faire lire ça aux païens. Parce que certains disent qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils sont des véritables païens. Au prétexte que non, Dieu est miséricordieux. Ah, toi aussi. Tu contribues à tuer tous les projets de Dieu dans un foyer et tu sens qu'il faut te laisser faire. D'accord. On va voir. Vous allez découvrir qu'on ne vous a encore rien enseigné sur Dieu. Et je vous préviens, quand vous faites le mauvais cœur là, avec les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, en disant que ah, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, vous devez savoir que seul celui qui aime peut comprendre la guerre. Seul celui qui aime comprend pourquoi faire la guerre et sait comment faire la guerre. Dieu aime ses enfants et c'est par amour pour ses enfants qu'il choisit une démarche de vengeance pour ses enfants, qui choisit une démarche de sauvetage pour ses enfants. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans les ténèbres dans la boue, dans les captivités, dans les maladies, dans les souffrances, dans l'esclavage, dans les horreurs, dans l'infertilité, dans le désert, dans la sécheresse, dans les malheurs. Dieu ne peut pas faire ça. Alors il prend les mesures pour cela. Que ce soit clair et limpide. Je vous ai dit que si dans un foyer qui dysfonctionne, si dans un foyer qui dysfonctionne, il y a une personne qui est un adorateur et qui est un véritable adorateur, Dieu prend le dossier là même personnellement. Personnellement. Il dit que bon, ça a dépassé mon enfant, ça ne peut pas me dépasser. Tu tortures l'enfant d'autrui. Quand tu es dans un foyer où il y a un adorateur qui fournit des efforts, fait les jeûnes secs, les louanges d'adoration, investit en temps, énergie, argent pour l'œuvre de Dieu, pour plaire à Dieu, etc. Toi, tu passes le temps à la torturer, à la menacer, à le torturer, à le menacer, à lui dire n'importe quoi parce que tu es possédé par ton père ou par ta mère, parce que tu as été initié par ton grand-père ou ta grand-mère, etc. Et toutes vos bêtises là. Chaque fois que tu fais ces choses de sorcier, de sorcellerie, de sectaire, de sectarisme, Dieu fait ta comptabilité. Et un jour, la parole de Dieu s'applique sur toi avec rage. Et je vous lis encore la parole de Dieu à ce niveau. Il est écrit dans Nahum 1, verset 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Vous qui êtes des parents, quand quelqu'un torture votre enfant, ce n'est pas votre ennemi. On dit souvent au Cameroun, il faut faire attention, hein, faut faire attention. Fais très attention. Très, très attention. Il y a des gens qui n'ont pas noté. J'ai dit que c'est Nahum. Nahum 1. Le verset 2 à 3. Il faut bien noter ça. Il faut faire lire ça aux païens et aux incrédules qui disent que Dieu ne peut pas frapper. Il y a plein de passages comme ça, hein. Mais ça, c'est clair parce qu'on n'a pas besoin d'être décodé. C'est comme ça que les gens vous amènent dans les ténèbres, ne sachant pas que il y a le temps de Dieu. Nous sommes en train de regarder une configuration très importante. Et dans cette configuration, il y a donc un plan de prospérité. Quand vous avez donc la grâce que vous avez démontré à Dieu que vous l'aimez. Parce que lui, il dit dans sa parole qu'il aime ceux qu'il aime. Il le dit. C'est là où vous découvrez que dans l'affaire, si le match n'avait même pas encore commencé. Je ne connaissais même pas encore le sujet. Vous démontrez à Dieu que vous l'aimez. C'est là où vous comprenez l'esprit de Proverbe 8, le verset 17 à 20, pratiquement 21, ou encore de Deutéronome 28, de 1 à 14. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. On ne peut pas donner cet enseignement d'un trait. On est obligé d'y aller à deux étapes. Parce que je voudrais qu'on ait une deuxième partie de causerie éducative où on va parler de la vie de couple en elle-même. Il fallait d'abord sacler le terrain, faire les fondations, etc. Mais vous devez déjà savoir cela. Quand tu aimes Dieu,
Dieu aime ceux qu'il aime. C'est sa loi qui dit ça. Toi, tu ne l'aimes pas et tu veux qu'il t'aime. C'est comme ça que ça se passe. Tu refuses d'obéir aux instructions de Dieu. Tu les méprises. Tu n'en fais qu'à ta tête. Et tu veux que Dieu t'aime. Non, ce n'est pas comme ça. Quand donc Dieu te sort de ce mariage-là, parce qu'il a évalué la situation, les risques, parce que Dieu regarde ton bonheur dans la durée. Parfois, c'est trop compliqué. C'est impossible de te construire une relation de mariage épanouissant sur une très longue durée, parce que Dieu voit dans la longue durée. Il y a des stores de malédiction, il y a des adversités multiformes trop complexes. Alors bon, il prend le raccourci, l'affaire est classée. Quand l'affaire est classée, maintenant on peut réfléchir. On peut reconsidérer la question. Mais je vous le dis, que vous soyez dans un mariage calamiteux, que vous soyez célibataire, divorcé, veuf, ou dans un bon mariage, ou un mariage en déclin, parce qu'il y en a qui sont là. Quand on regarde bien vraiment, on se demande s'ils peuvent tenir longtemps, hein, si leur foyer va tenir. Parce que bon, le monde vous manque trop, on vous fait croire que oh, je suis marié, je suis stable, j'ai avec lui 7 enfants. Nous, on n'a pas besoin de poules pondeuses, hein. Faut faire attention. Ce n'est pas les poules pondeuses qui font faire grandir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est d'abord une affaire spirituelle. D'accord? Ce n'est pas les poules pondeuses. Stop. Faut oublier ça. On a besoin des personnes qui sont fertiles spirituellement. C'est ça qui compte. La parole de Dieu le dit. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner les biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. C'est Proverbe 8, le verset 17 à 21. Votre affaire de poule pondeuse là, parce que certaines femmes elles pensent qu'elles sont efficaces dans le mariage parce qu'elles sont des poules pondeuses. Vraiment, il faut nous laisser ça. Mieux même, tu n'es pas une poule pondeuse, mais tu comprends l'esprit de Matthieu 28, 19. Qu'est-ce que dit Matthieu 28, 19? C'est ça que vous devez comprendre. C'est là-bas où on vous attend dans la fertilité. Ce n'est pas dans le fait d'être poule pondeuse. Si tu fais 10 enfants, tous vont en enfer. Ça apporte quoi à Dieu? Hein? Tu es fertile dans quel domaine? Tu fais 15 enfants, tous sont en captivité. Ça apporte quoi à Dieu? Voilà les choses qu'on ne vous dit pas. Oui, l'enfant est un don de Dieu, mais le don de Dieu doit être orienté vers la lumière. C'est pas que tu fais qu'on investisse pour rien. On envoie les anges en mission ici, toi tu les pervertis. On envoie les anges en mission, tu les fatigues. La fertilité, et que ce soit clair dans vos esprits, la fertilité prioritaire, la fertilité prioritaire selon Dieu, que vous devez avoir, même dans le cadre du mariage, que dis-je, d'abord dans le cadre du mariage, est liée à ce qui est précisé dans Matthieu 28, au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 20 ajoute, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous êtes dans un foyer, et que vous ne comprenez pas la fertilité selon Matthieu 28, le verset 19 à 20. Vous êtes hors sujet. On n'a pas besoin des poules pondeuses. On n'en a vraiment pas besoin. Si vous avez des enfants, qu'ils soient des adorateurs. Si vous avez compris que c'est Dieu qui vous a donné des enfants, que ces enfants soient des adorateurs. Sinon, vous êtes inutile à l'œuvre de Dieu et vous appartenez au diable. C'est tout. Mes frères, c'est ceux qui respectent ma parole et la mettent en pratique. Vous connaissez cette réplique qui a été donnée, non? Quand on dit à Jésus-Christ que sa mère et ses frères le cherchent, mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Vous comprenez que ce n'est pas une affaire de fertilité matérielle. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Beaucoup d'entre vous qui écoutent cet enseignement et beaucoup de ceux qui vont l'écouter sont en danger. Vraiment en danger. Ces sujets vous concernent tous, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous lire ça. C'est Luc 8, 21. On va dire que non, 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 ce n'est pas biblique. Ils ont lu la Bible. Vraiment, qu'est-ce que vous faites même avec des gens qui commentent les commentaires au lieu d'aller à la source de la, des enseignements? La majeure partie des gens qui parlent la parole de Dieu ne l'ont pas lu. Ils commentent les commentaires. Ils ont lu le passage, non. Ils ont la connaissance matérielle des textes. Même la connaissance matérielle, il n'y a pas. Connaissance spirituelle, ils ont. Non. Je vous lis ça. Luc 8, le verset 19 à 21. Luc 8, le verset 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est sans appel. La fertilité dont nous parlons là, qu'on vous a donné dans Matthieu tout à l'heure, c'est spirituel. Voilà deux textes qui sont durs, secs et clairs. Nous, on ne pratique pas la démocratie. Il y a une grande différence, et je vous le dis aujourd'hui, que ce soit clair dans vos esprits, entre le libre arbitre et la démocratie. Nous, on pratique le libre arbitre, pas la démocratie. Les gens vous trompent avec des faux concepts. Vous embrouillez l'esprit avec des faux débats. On attend que les foyers constitués en Jésus-Christ soient fertiles. Et cette fertilité est spirituelle d'abord. Dans le fait qu'à travers vous, Dieu gagne. À travers vous, que Dieu puisse sortir les brebis, ces brebis des captivités. Dieu n'envoie pas un être humain sur terre pour qu'il aille habiter les ténèbres. Je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Dieu n'envoie pas un être humain sur terre pour qu'il aille habiter les ténèbres. Il envoie un être humain sur terre pour que ce dernier passe ses examens et qu'il vive dans le paradis sur terre avant le paradis au ciel. Et chaque être humain doit être grand selon Dieu, de manière à ce que Dieu puisse exploiter le don qu'il est, cet homme-là, et les dons qu'il a, c'est-à-dire les dons que l'Esprit Saint lui a donnés. Vous ne pouvez pas être là et vous dire que vous allez faire tout et n'importe quoi, être dans l'idolâtrie. Regardez nos familles. Les gens ont d'autres priorités que Dieu. Hein? Donc, toi, tu as d'autres priorités que Dieu. Mais tu veux que Dieu te traite prioritairement. C'est comment avec vous? Même quand vous êtes dans une simple relation de, ou d'amitié, là, ou c'est pas, ou d'amour, si quelqu'un ne t'aime pas, et il te démontre que tu ne vaux rien devant sa face, est-ce qu'il est en droit de penser que toi, tu dois lui montrer qu'il est important? Comment? Pourquoi? Où ça? Sur la base de quoi? Au nom de quoi? Vous avez toutes les priorités ici dehors. Toutes les priorités, excepté Jésus-Christ. Vous avez toutes les urgences à regarder. Vous avez vos séries. Vous avez vos parfums. Les rouges à lèvres. Les vêtements. Vos chants préférés. Vos copines et copains préférés. Toutes vos fréquentations. Et tout ce qui va avec. Et vous ignorez que tout ce qui et tous ceux qui prennent la place de Dieu dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Allez suivre l'enseignement que j'ai donné, que nous avons donné sur la nature de l'idolâtrie. C'est disponible dans le site internet. Il y a un certain gars ici, quand il a une fille qu'il désire, mais la fille là devient Dieu une fois, hein. Il y a des femmes ici, dès qu'elle a un homme qui peut lui donner un peu d'argent, il devient Dieu une fois. Elle en perd même sa dignité. J'ai énormément de choses à vous enseigner, mais il faut d'abord qu'on sacle le terrain. Avant de vous parler de la vie de couple en elle-même, il faudrait que je vous explique l'esprit qui amène à cette vie de couple. Les configurations spirituelles, les conditionnalités spirituo-matérielles voulues par Dieu qui mènent à cette vie de couple. Quand tu as un conjoint ou une conjointe qui t'empêche de prier, qui t'empêche de lire la parole de Dieu, qui t'empêche d'écouter les enseignements de Dieu, de l'Esprit Saint, qui t'empêche de faire les louanges et adorations, et tu dis que c'est normal parce que tu gagnes quelque chose là-bas. Ça veut dire que la personne là est devenue Dieu pour toi. Et les femmes font trop ça ici dehors. Ah, c'est lui qui paye mon loyer. Ah, c'est lui qui charge mon téléphone. C'est même lui qui m'a acheté les vêtements que tu vois là. Moi, je ne veux pas le déranger. Si je ne fais pas comme ça, qui va s'occuper de moi? Donc, Dieu est mort. C'est ça. Dieu est mort. Tu as tué Dieu. Un lézard qui doit avoir des délivrances de toute catégorie, là, les serpents, les dragons et tout ça dans son corps, qui te donne un agent pourri et magnétisé. C'est lui qui maintenant te dit comment vivre. Alors que tu sais, tu as la grâce d'avoir entendu la parole de Dieu. Et tu sais qu'il te faut prier, qu'il te faut jeûner. Tu vas casser ton jeûne sec à cause d'un agent pourri qui permet encore de venir te voler la quantité qu'on n'a pas encore volée. Tu dis que non, je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas jeûner parce que mon gars va venir. Vous nous énervez au ciel souvent, on vous regarde comme ça. On ne sait même pas quoi faire de vous. Hein. Ton gars là, qui va venir, c'est aussi Dieu qui l'a fabriqué. Hein. Et dans le plan de Dieu, il devrait être un adorateur. Pas un troubleur de la vie spirituelle d'autrui. Je vous lis quelque chose. D'abord, il est écrit dans Exode 34, le verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le 15 dit quoi? Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. C'est plus long que ça, mais je vais m'arrêter là. Jérémie a traité de ces questions. Quand on regarde ce que Jérémie dit dessus, c'est sans appel. Donc, il y a des gens là qui sentent que c'est des hommes qui sont plus importants. Ils sous-estiment Dieu, ils sous-évaluent Dieu. Ils estiment que Dieu ne peut rien faire pour eux. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les cieux brûlés du désert, la terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et il y a même quelque chose que beaucoup d'êtres humains oublient. Parce que parfois, Dieu te montre que la personne à laquelle tu es là, déjà tu es avec la personne dans le péché. Et que la personne est mauvaise. Tu refuses de comprendre. Le jour où il y a rupture, tu commences à pleurer. Tu organises le deuil. Hein? Tu organises le deuil pourquoi? On vient faire ta délivrance, il ne veut pas la voir. Vous êtes même simple. On organise ta délivrance, tu protestes. Il fallait que tu te sépares de la fille là. Même si elle était bonne au lit, c'était ton pire cauchemar. C'est là-bas que tous tes malheurs arrivent. Il fallait que tu te sépares de ce gars, même s'il était un bon faroteur. C'est tout. C'est là où tous tes malheurs arrivent. Dieu voyait ses intentions. Si on ajoutait seulement à votre relation 12 mois supplémentaires, c'est dans un cercueil qu'on allait te retrouver. Pardon, à la morgue. Après ça, les gens allaient organiser comment manger les arachides sur ton cas. En fait, ta délivrance, tu commences à dire que oh, vraiment, moi, je ne voulais pas me séparer. On a même eu deux enfants. Les enfants dans le péché, oui. Maintenant, il y avait les enfants du péché qui étaient la mort qui venait. Le salaire était en train de venir en courant. Dieu, lui, il a cherché depuis à te sauver de l'affaire. Il a trouvé un moyen. Il t'a montré la personne nue crue. C'est vrai pensée. Jérémie 17 au verset 20 dit quoi? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il y en a d'autres, dès qu'ils ont rompu, c'est comme ça, hein. Chez les femmes, c'est plus fort que chez les hommes quand on regarde. Quand elle a rompu avec toi, elle souhaite que tu meurs vite. Elles sont nombreuses comme ça. Donc, comme votre relation s'est gâtée, tu mérites la mort. Tu ne dois plus être rien. Mais vous avez oublié que la parole de Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous avez oublié que l'Éternel dit que il éprouve les cœurs, il sonde les reins, et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Qui vous a dit que vous avez besoin de vous venger? Il y a un vengeur qui est là, qui connaît les dossiers mieux que n'importe qui. Vous ne connaissez pas les dossiers. Vous avez seulement vu une rupture. Vous savez qu'on l'a envoûté. Vous savez que peut-être c'est pas sa femme spirituelle qui est derrière. Est-ce que vous savez que peut-être ce n'est pas le plan de Dieu de partir? Vous ne savez rien de tout ça. Vous voulez seulement la vengeance. Vengeance contre qui, au fait? Ah. L'ignorance est un fléau mortel. Hein. Je dis que l'ignorance est un fléau mortel. Et pourquoi la parole de Dieu dit que vraiment mon peuple souffre faute de connaissance? Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, les choses se gâtent, tu laisses. Oh. Dieu a prévu quelque chose pour toi de meilleur, laisse. Laisse ce dossier-là. Va prier. Demande même ta délivrance. Il y a les scorpions et les lézards qui habitaient déjà partout en toi, autour de toi, etc. Rien qu'à cause d'une relation, tu as aidé à 6 maris spirituels. Tu as les couches de jour, les couches de nuit. Faut laisser. Oui, tu regardes, tu aimais ses formes. Dieu va trouver la mèche, la version améliorée de ses formes. Il va te donner ça. Et non seulement la petite aura les formes comme tu aimes voir là, que ce soit les manjanja que tu veux voir ou les petits citrons, on s'en fout. On va trouver ton goût, ça existe. On n'a même pas besoin de chercher trop, ça existe, on a déjà fabriqué. On va trouver ton goût. Maintenant, il faudra qu'elle respecte la conditionnalité principale, qui est même une conditionnalité principielle, du fait qu'elle soit une adoratrice de Christ. Et on n'a pas dit que va chercher ta femme. On a dit que va prier, Dieu va te donner. On n'a pas dit que va chercher ton mari. On a dit que va prier, Dieu va te donner. Parce que certains d'entre vous sont bizarres. Quand il y a les ruptures là, rupture parce que j'avais mon gars, ma go. Rupture parce que j'étais marié à divorce. Maintenant, elle commence à être des chasseurs et des chasseuses. À la limite, même ils entrent dans un processus de prédation. Nous, on n'a pas besoin d'être prédateurs. Reste calme. Laisse d'abord te nettoyer. Oh, tu as pris beaucoup de boue là-bas. Le venin est dans ton corps. Ton sang même est devenu le sang d'un animal. Certaines parties de ton corps ne sont pas humaines. Laisse qu'on travaille d'abord. On arrange. Quand on va arranger, entre-temps, on prépare l'autre. Les autres doivent passer leurs examens. Ceux qui répondent aux critères, on va te dire que voilà ta part. Et tu vas voir que c'est ton goût. Un peu de patience, tu vas voir. Parce que certains d'entre vous ont des idées arrêtées sur qui il faut qu'il épouse, sur qui il faut qu'on lui donne. Non, ce n'est pas comme ça. Laisse le passé dans le passé. En Jésus-Christ, tout est nouveau. Le passé est passé. On te requinque que toi-même. On refait tes formes là qui étaient déjà en train de tomber de gauche à droite. Parce que tu étais connecté aux ténèbres. Si dans ta ancienne relation, ta verge était petite, on arrange même, on lui donne une bonne taille. On arrange tout ça. Entre temps, toi, tu dois seulement être concentré sur le fait que tu dois construire ta relation avec Dieu. Tu dois construire ta relation avec Dieu. Tu es préoccupé par ça. On va tout arranger. Ne cherche pas. Ne cherche même pas le mari. Ne cherche pas la femme. On va t'apporter tout sur place. Ton mari va te venir sur un plateau en argent. Ta femme va venir sur un plateau d'argent. Et la prochaine fois, on va parler alors de ce qui se passe quand Dieu t'a déjà donné ta femme. Elle est venue dans un plateau, sur un plateau, un agent te dit que voilà ta part. Voilà la personne qu'on t'a choisie. Ce n'est pas que tout soit déjà parfait, mais travailler ensemble pour que la perfection soit en Jésus-Christ. C'est comme ça. Ce que moi je peux vous dire, et c'est une grâce exceptionnelle, que je puisse dire une telle chose. Vous êtes exceptionnellement et particulièrement bénis de pouvoir écouter un tel enseignement, d'entendre de telles révélations simplifiées dans un langage accessible pour tout le monde. Vous êtes richement bénis. Et c'est par là qu'on doit finir, car c'est la vérité. Vous savez, la parole de Dieu dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour vos vies.
C'est ça qui se passe dans vos vies. Et actuellement, vous êtes en train d'être affranchi. C'est Jean 8, 32 qui le dit. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous êtes en train d'être affranchi aujourd'hui. C'est pour cela que vous êtes particulièrement béni. Vous n'allez plus jamais être ballotté comme avant. Plus jamais. Vous n'allez plus avoir les souffrances du passé. Aujourd'hui, j'enlève des charges de votre vie. J'enlève les poids que le monde des ténèbres avait laissés sur vos vies. Je brise les chaînes et les murs que le monde des ténèbres avait installés dans vos vies. Je nettoie les chemins que le monde des ténèbres avait salis pour empêcher que vous voyez devant. Aujourd'hui, je vous libère du poids du passé. Aujourd'hui, je vous déconnecte. De manière radicale. Des lourdeurs du passé. Car vous avez trop souffert ainsi. Vous avez trop subi. Et vous devez cesser de subir. Conformément à ce que la parole de Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est de ça dont il s'agit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, vous avez reçu la vérité. On ne vous a parlé que de vérité. On vous a tenu un langage de vérité. On n'a traité que de réalité. On a parlé de vos vies. Ce qui est certain, c'est que vos bénédictions ne vont pas s'arrêter ici aujourd'hui. Elles vont continuer. On aura une autre causerie éducative sur la vie du couple. La vie de couple, cette fois, on va entrer dans la vie de couple. Jusqu'ici, on était autour. On a libéré le chemin. On a nettoyé. On a sarclé le terrain. Soyez abondamment, richement bénis. Mm-hmm.